Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous ouvrirons ce journal avec une prise de choix pour le futur gouvernement brésilien. Le tout nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a convaincu le très populaire, mais aussi très controversé, juge anticorruption Sergio Moro, d'accepter le poste de ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
À 5 jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, les derniers sondages montrent des duels encore extrêmement indécis.
Et des résultats serrés à l'image d'une société américaine polarisée et divisée.
Dans votre journal également, l'un des principaux donateurs pro-Brexit est visé depuis hier par une enquête.
Aaron Banks est soupçonné d'irrégularité dans le financement de la campagne du référendum au Royaume-Uni.
Ce vendredi 2 novembre a été décrété par les Nations Unies Journée internationale contre l'impunité pour les crimes contre les journalistes, Thomas.
Une journée en hommage à nos deux confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués au Mali, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Nous reviendrons également sur une polémique au sujet du clip officiel appelant les Français à voter aux élections européennes et accusé de propagande par les opposants d'Emmanuel Macron. Enfin, invité de notre page Europe aujourd'hui, Alain Lamassoure, député européen LR. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Eh bien, retour à notre tour sur les midterms à venir aux États-Unis, journée spéciale sur France Culture. Comment Donald Trump réinvente-t-il le monde? Son néo-nationalisme, le populisme montant, sont-ils les marques d'un échec de la gouvernance mondiale? Nous en parlerons avec notre invité, un spécialiste des relations internationales, Bertrand Badie, qui sera avec nous à l'occasion de la parution aussi de son nouvel essai géopolitique « Quand le Sud réinvente le monde ».
Merci, à tout à l'heure. À peine élu, Jair Bolsonaro n'aura décidément pas perdu de temps pour concrétiser, tambour battant, certaines de ses promesses de campagne, laissant déjà présager combien, à partir de sa prise de fonction en janvier prochain, sa présidence sera à coup sûr jalonnée de controverses. Hier, le tout nouveau président d'extrême droite a non seulement confirmé sa volonté de transférer à Jérusalem l'ambassade du Brésil, mais il a également laissé entendre que son pays pourrait fermer sa représentation diplomatique palestinienne dans la capitale, Brasilia. Deux mesures aussi polémiques qu'hasardeuses, tant elles risquent de porter un coup à l'économie même du Brésil, gros exportateur de viande halal vers les pays musulmans. Et puis, l'ancien militaire de réserve devrait aussi imposer un virage radical s'agissant de la politique intérieure, cette fois-ci du pays. Sa proposition tout d'abord de fusionner le ministère de l'Environnement avec celui de l'Agriculture provoque un tollé chez les écologistes. Enfin, un autre super ministère a lui d'ores et déjà été validé hier, celui réunissant la justice et la sécurité publique. Et là encore, Jair Bolsonaro a frappé un grand coup puisqu'il a réussi à persuader le magistrat anticorruption Sergio Moro de prendre la tête de ce ministère élargi. Sergio Moro, c'est-à-dire celui-là même qui était en charge de l'opération Lavage Express sur cette tentaculaire affaire de financement illicite des partis qui a discrédité l'ensemble de la classe politique et ouvert la voie à la victoire d'un certain Bolsonaro. Les précisions d'Olivier Poujade.
Il est le grand artisan du lavage express contre la corruption, le chef d'orchestre de cette opération Lavage Atto. C'est à ce titre d'ailleurs que Sergio Moro, modeste juge de première instance de l'État du Paraná, se retrouve catapulté à la tête d'un des ministères clés du futur gouvernement Bolsonaro, en ayant toujours juré de ne jamais s'impliquer en politique. Pourtant, au fil des enquêtes qu'il a menées, le ciblage politique de son action s'est avéré chaque fois plus évident. Lorsqu'il permet, en 2016, la diffusion d'une conversation enregistrée illégalement entre Lula et Dilma Rousseff, quelques mois avant la mise en œuvre de la destitution de l'ancienne présidente. Moro s'est toujours défendu de s'attaquer spécifiquement au Parti des travailleurs, mais son sens du timing pour faire fuiter, par exemple, la déposition d'Antonio Palocci, ancien bras droit de Lula, une semaine avant le premier tour, cette dernière bombe médiatique lâchée par le juge, ne laisse guère planer de doute sur l'acharnement dont il a fait preuve pour écarter Lula. Nombreux sont ceux qui contestent ces méthodes, le show médiatique organisé autour de la perquisition du domicile de l'ancien président, les détentions préventives et au final l'incarcération de Lula, dont certains procureurs estiment qu'elle se base plus sur des convictions que sur des preuves. Mais Moro a décroché son Graal, un coup de maître dont le premier effet a été d'ouvrir la voie vers la présidence au candidat d'extrême droite Bolsonaro.
Si pour certains les qualificatifs de clownesque et pitoyable auraient tendance à suggérer tout ce que le système politique d'un Jair Bolsonaro ou d'un Donald Trump a de factice et de frelaté, pour John Bolton, en revanche, il désigne trois tyrans que seraient les présidents à la fois du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua. Hier, le conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis s'en est pris à cette troïka de la tyrannie en Amérique latine, une formule qui n'est pas sans rappeler le fameux axe du mal de l'ex-président George W. Bush. Et c'est ainsi que le gouvernement américain a donc confirmé qu'il continuerait d'utiliser l'arme des sanctions contre ces trois régimes au nom, je cite, de la défense de l'état de droit, de la liberté et de la dignité humaine. Autre mesure punitive lancée par les États-Unis, 6 mois après avoir claqué la porte de l'accord sur le nucléaire iranien, Donald Trump rétablira lundi les dernières sanctions contre Téhéran, les plus draconiennes des mesures coercitives qui viseront essentiellement à empêcher les achats de pétrole iranien, en particulier de la part de la Chine. Reste à savoir si Pékin, victime de son côté de la guerre commerciale à outrance engagée contre elle par les États-Unis, accédera aux injonctions de Washington. Toujours aux États-Unis, mais sur la scène intérieure, cette fois-ci une grande incertitude demeure. À 5 jours des élections de mi-mandat, les derniers sondages montrent des duels encore extrêmement indécis, même si les démocrates gardent l'avantage pour le contrôle de la Chambre des représentants et les républicains pour le Sénat. Une campagne électorale marquée par des violences hors normes, qu'il s'agisse de l'attentat contre la synagogue de Pittsburgh, de l'épisode des colis piégés ou des débats entre candidats qui n'ont jamais été aussi violents. Comme un décalque, en somme, d'une société profondément divisée et polarisée, ainsi qu'a pu le constater en Floride notre envoyé spécial Claude Guibal.
Sur le pare-choc de la voiture de Brenda, il y a un autocollant Trump. Et lorsqu'elle s'arrête dans le garage de son ami Richard, hérissé de bannières à la gloire du président américain, cette retraitée sait que là, on est entre gens qui se comprennent, des gens qui votent pareil.
On a perdu des amis démocrates parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. C'est à se demander pourquoi on a été amis. Les conservateurs comme nous, on n'aime pas les disputes. Et je pense que les libéraux, ils ont tendance à être plus dans l'émotion que dans les faits.
Raciste contre communiste, voilà le genre d'invective que l'on se lance désormais à la tête, à la télé comme dans les repas de famille. Chez Judy, la démocrate, 2 années de mandat de Donald Trump ont fait imploser la cellule familiale.
Il y avait des républicains qui ont tourné Trump, mais c'est encore autre chose que d'être républicain. C'est un autre niveau de folie. C'est un être humain mauvais. Il ment tout le temps. Pour moi, avoir une conversation rationnelle avec quelqu'un de l'autre bord, je ne peux pas.
Le tissu social de l'Amérique est déchiré. Certaines familles ne se parlent plus. La polarisation de la société se sent partout dans la violence de ces élections de mi-mandat que beaucoup considèrent comme les plus déterminantes de l'histoire des États-Unis.
Et puis j'ajoute que de son côté, Donald Trump, lequel a décidé de faire de la question migratoire et de l'identité blanche américaine les thèmes centraux de cette campagne, a affirmé hier que son pays n'accepterait plus de demandes d'asile non officielles. Le chef de la Maison Blanche qui a également suggéré à l'armée déployée à la frontière mexicaine de faire feu sur les migrants en cas d'agression. Au Japon, là, c'est peu de dire que la politique d'immigration apparaît radicalement différente. Ce matin, le gouvernement a validé un projet de loi autorisant l'accueil de davantage d'étrangers afin de combler en partie la pénurie de main-d'œuvre. Un programme inédit qui doit permettre de faire entrer des travailleurs moins qualifiés dans les secteurs comme la restauration, le bâtiment ou le soin aux personnes. Le Premier ministre souhaite que ce nouveau dispositif entre en vigueur l'année prochaine. Comme si les négociations sur le Brexit n'étaient déjà pas assez compliquées, hier, l'agence britannique de lutte contre le crime organisé a lancé une investigation visant un homme d'affaires, Aaron Banks, considéré comme le grand argentier des pro-Brexit. L'enquête concerne quelques 8 millions de livres accordés sous forme de prêt à une organisation qui finançait la campagne du Leave. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres et cette enquête vient donc à peine d'être ouverte que déjà les anti-Brexit, eux, en appellent désormais une interruption du processus de sortie de leur pays de l'UE.
Absolument. Il y a des députés nationalistes écossais qui remettent en cause le résultat du référendum, des travaillistes qui demandent l'organisation d'un nouveau scrutin parce qu'Aaron Banks est un personnage central du Brexit. Il fait partie des fondateurs du mouvement Leave, c'est un proche de l'extrême droite et de Nigel Farage. Il a d'ailleurs, comme lui, soutenu Donald Trump aux États-Unis et il a été en 2016 le principal artisan de la campagne électorale pour quitter l'Union européenne. Il a injecté à lui seul près de 15 millions d'euros. Et c'est sur l'origine du une partie de cet argent. Que s'interroge la National Crime Agency, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir collecté de l'argent à l'étranger, possiblement en Russie, le pays d'origine de sa femme. Il a rencontré l'ambassadeur russe à de nombreuses reprises, participé à des réunions sur des opérations d'investissement dans des mines d'or et de diamants, notamment en Guinée. La plainte sur le financement de la campagne pro-Brexit qu'il vise directement a été déposée par les responsables de la commission électorale britannique. Ils avaient déjà infligé au mois de mai une amende au groupe pro-Brexit pour dépassement du plafond des dépenses de campagne. Ils vont cette fois un peu plus loin. « Nous avons des raisons de penser », explique l'un d'entre eux, « que l'origine de l'argent a été volontairement dissimulée. » Les transactions financières impliquent notamment des sociétés enregistrées à Gibraltar et sur l'île de Man. Aaron Banks, lui, affirme qu'il n'a rien à se reprocher et poste sur les réseaux sociaux des photos de ses vacances aux Bermudes. « Je serai blanchi », dit-il, tout comme la directrice générale du mouvement Leave, qui elle aussi est mise en cause.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres.
Il est 12h40 sur France Culture. La suite de votre journal, Thomas Cluzel.
C'était il y a 5 ans, le 2 novembre 2013. Nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en mission à Kidal au nord du Mali, étaient enlevés et tués par leurs ravisseurs. Un assassinat aussitôt revendiqué par l'organisation ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sauf que 5 ans après, la lumière n'a toujours pas été faite sur les circonstances précises de leur assassinat, ni sur le mobile précis de leur enlèvement. Le point sur cette enquête avec Valentin Riglet-Brussier.
5 ans d'attente et d'incertitude pour les proches des victimes. Une affaire qui reste floue et c'est bien ce qui pèse le plus pour Christophe Boisbouvier, rédacteur en chef à RFI.
L'enquête avance très lentement. Ce qui est dur pour les deux familles et pour nous les proches, c'est justement cette ambiguïté, cet équivoque. D'abord, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances ils sont morts. Et ensuite, on ne sait pas exactement quels sont les mobiles des assassins. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Plusieurs pistes sont envisagées. D'abord, l'argent. Le partage inégal de la rançon payée pour les otages d'Areva à Arlit, au Niger, 4 jours plus tôt, pourrait être un motif de frustration pour certains ravisseurs qui auraient compensé en enlevant les 2 salariés d'RFI. Un rapt qui a, on le sait, mal tourné. Là encore, plusieurs pistes. Est-ce la panne de leur véhicule ou le passage d'un hélicoptère qui a provoqué la panique des preneurs d'otages et l'exécution sans préméditation de Ghislaine et Claude? À cela s'ajoute la difficulté d'obtenir des informations, les services de renseignement ne déclassifiant que très partiellement les documents susceptibles de faire avancer l'enquête reprise en main depuis 2015 par le juge Herbeau. Ce dernier s'est rendu en février dernier au Mali afin d'y entendre des témoins, consulter des relevés téléphoniques. Il doit recevoir les parties civiles le 8 novembre prochain pour les informer de l'avancée de ses recherches.
Au lendemain des affrontements entre groupes armés survenus dans le nord de la Centrafrique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est arrivé hier à Bangui pour une courte visite, un voyage qui intervient surtout alors que la Russie joue désormais un rôle déterminant sur place en livrant des armes, mais aussi en participant elle-même à la formation de l'armée centrafricaine. Et puis, outre les considérations géostratégiques, l'autre enjeu de cette visite, c'est évidemment la richesse des sols du pays en diamants, en or et en uranium. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, débute lui aujourd'hui une visite de 3 jours au Vietnam pour contribuer à consolider une relation culturelle déjà forte et surtout renforcer des liens économiques particulièrement faibles. Pendant ce temps, Emmanuel et Brigitte Macron, eux, se reposent toujours en Normandie, hier, en déambulant dans les rues d'Honfleur, tout en posant pour des selfies. Le chef de l'État a lancé « Tout va bien, rassurez-vous ». Ça fait plus de 20 ans que je suis là, tous les 1er novembre, et j'y tiens. Eux en ont assez, eux, ce sont les agriculteurs bio qui attendent toujours en vain les aides qui leur ont été promises, mais surtout qui leur sont dues. Concrètement, 1/3 seulement des aides bio de 2016 ont été soldées, rien pour 2017 et pas davantage en 2018. Du coup, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique a décidé de saisir le défenseur des droits. Il faut dire que les producteurs et productrices tirent la langue, souvent obligés de contracter des prêts court terme pour payer leurs fournisseurs ou leurs impôts. Les explications de Manuel Ruffez.
Ils en ont marre des promesses. Dernière en date, celle qu'au début de l'automne 2018, toutes les aides de 2016 seraient réglées. Ils les attendent toujours. Au total, on parle de sommes qui vont de 5 000 à 20 000 euros par exploitation, autant dire des sommes importantes. Guillaume Rioux, le président de la Fédération nationale d'agriculture biologique.
Ça devient absolument intenable en termes de trésorerie, premièrement. On arrive, tant bien que mal, à négocier avec nos banques des reports d'annuités, etc. Mais enfin, c'est pas une situation qui peut être durable. Et puis, par ailleurs, ça immobilise un peu nos investissements et nos projections entrepreneuriales qu'on peut tous avoir pour imaginer l'agriculture biologique de demain.
On leur parle de difficultés informatiques, mais les producteurs bio mettent en doute la volonté politique. Il compte maintenant sur le défenseur des droits.
Peut-être que le défenseur des droits aura les moyens de mettre sous pression le gouvernement pour que rapidement des moyens financiers et des moyens humains soient mis pour que ces instructions, enfin 2016-2017 et les quelques 2015 qui restent, soient instruites pour qu'on passe rapidement maintenant au paiement de l'année 2018 en ce début d'année 2019. Mais nous, on peine à croire que ça va arriver au vu de l'atermoiement permanent.
Tout ça dans ce contexte particulier où l'agriculture bio progresse en France de 15 à 20% par an.
Et s'agissant cette fois-ci des producteurs de lait, des opérations Chrysanthème dans les super et hypermarchés auront lieu cet après-midi, notamment dans la Sarthe et en Seine-Maritime. Concrètement, il s'agit en ce jour des morts de placer des chrysanthèmes dans les rayons où se trouvent les produits laitiers, une manière de dénoncer les promotions abusives sur les produits laitiers en grande surface et qui, selon les syndicats, enterrent les producteurs de lait. Le déficit du budget de l'État français s'est établi à 87,1 milliards d'euros à la fin septembre. C'est 10,8 milliards de plus qu'il y a un an à la même période. Une évolution qui s'expliquerait notamment par les effets du début de la baisse de la taxe d'habitation. C'était hier le jour de l'ouverture officielle des comptes de campagne en vue des élections européennes et une semaine plus tôt tout juste était mise en ligne sur le compte YouTube du gouvernement un clip pour inciter les électeurs français à aller voter. Cette vidéo d'une trentaine de secondes a été vue depuis 1 million de fois, autant d'occasions de disserter sur son contenu. Nombreux sont ceux en effet aujourd'hui à y voir ni plus ni moins qu'un clip de propagande pour la majorité présidentielle financée par des fonds publics, les explications de Steven Goyer.
Une musique grave, dramatique, presque apocalyptique. Dans un montage rapide avec des coupes saccadées, on voit un bateau sur la mer, une file de migrants accompagnée d'un texte sous forme de questions. Immigration, maîtriser ou subir. Des glaciers qui fondent, des rues dévastées par les inondations et ce message. Climat, agir ou ignorer. Benjamin Lucas est secrétaire général du mouvement Génération. Il dénonce un clip taillé sur mesure pour le parti présidentiel.
Un clip qui prépare aux élections, normalement il incite à aller voter. Il ne donne pas des messages. Par ailleurs, certains de ces messages, j'aurais beaucoup à redire sur le fond, notamment celui sur l'immigration qui est nauséabond, qui reprend la rhétorique de l'extrême droite. C'est là aussi un clip qui veut confisquer le débat aux citoyens européens. Il y a un usage qui est fait, qui doit être intégré à la campagne d'En Marche Emmanuel Macron. Le contribuable n'a pas à payer pour la campagne d'un parti politique avec les moyens de l'État.
Génération a d'ailleurs saisi la Commission nationale des comptes de campagne et le CSA pour réclamer le retrait du clip. Un clip où, musique mise à part, on ne peut entendre que deux voix. Et là, ces voix, ce sont celles de Matteo Salvini et de Viktor Orban. Et pour l'ancien ministre, les Républicains Thierry Mariani, c'est bien Emmanuel Macron qui choisit ici ses adversaires.
On aurait vu Salvini, Orban et plus au milieu, Juncker, Merkel, etc. Ben là, en ce cas-là, on peut dire, voilà, on voit toute une série de leaders. Comme par hasard, on voit les deux seuls sur qui repose l'argumentation de M. Macron pour dire « Mon Dieu, les années 30 reviennent ». La ficelle est un peu lourde. C'est pour ça que je maintiens que c'est une propagande à gros sabots et pas du tout de la communication.
Matteo Salvini n'a d'ailleurs pas manqué de réagir sur Twitter. Le gouvernement français publie avec l'argent des contribuables un clip officiel pour les européennes en m'utilisant comme un épouvantail. Macron et ses amis doivent avoir très peur. En 2019, un printemps des peuples qui va les balayer les attend. Fin de citation.
Et voilà qui nous conduit tout naturellement à ouvrir notre page Europe. Invité aujourd'hui Alain Lamassoure, député européen en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Pays Basque. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés en studio pour vous interroger, Annabelle Grenier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Une première question, monsieur Lamassoure. Il y a 25 ans, entra en vigueur le traité de Maastricht. Soumis à référendum en France, il n'était passé que d'une courte tête à 51,4%. Vous étiez à l'époque ministre aux affaires européennes, dans le gouvernement Balladur. Comment avait été perçu à ce moment-là ce résultat?
Non, j'étais dans l'opposition. Nous étions encore sous un gouvernement socialiste. Et j'avais fait campagne, bien qu'étant dans l'opposition, j'ai fait campagne pour la ratification du traité de Maastricht, pour le référendum en faveur de Maastricht, qui mettait en place l'union monétaire de l'Europe, la fusion, le mariage de nos économies jusqu'à la fusion des monnaies. Et j'avais constaté à cette occasion que si j'avais fait campagne pour le oui, la plus grande partie de mes électeurs ont voté non, parce que la tradition de la Ve République inaugurée par le général de Gaulle en ce qui concerne l'usage des référendums, c'est que de chaque côté, du côté du président qui pose la question, du côté des citoyens qui y répondent, on considère que le référendum est plus l'occasion pour le peuple d'exprimer sa confiance ou sa défiance envers le président qui pose la question, plutôt que de répondre à la question elle-même. À l'époque, l'Europe était beaucoup plus populaire que le président Mitterrand, et le président Mitterrand a failli perdre le référendum de Maastricht. En 2005, lorsque Jacques Chirac a commis, j'allais dire, la même erreur, et a soumis au référendum la ratification du traité constitutionnel européen, 55% des Français ont voté contre, on ne saura jamais quelle est la part des Français qui étaient en fait hostiles à Jacques Chirac et ceux qui étaient vraiment hostiles au traité.
Alors, Alain Lamassoure, vous, donc quelques mois plus tard, après ce traité de Maastricht, vous êtes ministre aux Affaires européennes dans le gouvernement Balladur, cette fois-ci, c'est bien le cas.
Oui.
Voilà. Donc l'Europe à ce moment-là, bon, on sent qu'il y a, c'est le début de l'euroscepticisme, hein, ce 51,4%. Mais est-ce que déjà on peut réfléchir au fait que peut-être les responsables politiques eux-mêmes ont rendu quand même l'Europe impopulaire parce qu'elle servait beaucoup de bouc émissaire, hein, pour les responsables politiques pour justifier les problèmes dans les États-nations, par exemple.
Oui, bien sûr. Ça n'est pas le début de l'euroscepticisme. L'euroscepticisme a vraiment prospéré, si je puis dire, en France, à partir du référendum perdu de 2005. Mais jusque-là, l'Europe est restée très populaire. Et au passage, puisque nous commémorons en quelque sorte le traité de Maastricht, saluons l'extraordinaire succès de l'euro. À l'époque, les économistes anglo-saxons ricanaient, l'un d'eux avait même eu le prix Nobel d'économie pour une thèse brillante dans laquelle il démontrait que des pays différents, avec des budgets différents, ne pouvaient pas avoir la même monnaie. 20 ans après, on se rend compte que l'euro est indestructible. Alors, il a résisté notamment à 3 années de spéculation quotidienne autour de l'année 2000 de tous les marchés financiers sur l'éclatement de l'euro. L'euro a résisté à tout. Alors, je réponds à votre deuxième question. Oui, ce dont souffre le plus l'Europe, c'est que comme l'Europe n'est pas incarnée par des personnalités qui représentent l'intérêt de l'Europe et qui soient élus directement par les citoyens européens, c'est extrêmement facile à nos dirigeants nationaux de faire porter à l'Europe le chapeau pour toutes les erreurs. Les erreurs que commet l'Europe, très bien, on en commet bien sûr, mais aussi les erreurs nationales.
Alors le traité de Maastricht, c'est le droit de libre circulation et de résidence à l'intérieur de l'Union européenne, hein, pour les citoyens des pays membres. C'est aussi le lancement, vous l'avez dit, de l'Union économique et monétaire. Et ce sont les critères de Maastricht, la fameuse règle de la réduction du déficit public en dessous des 3% du PIB. Mais quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui, 25 ans après? Peu de pays y sont parvenus et puis même certains dénoncent la règle, comme l'Italie en ce moment.
Ben oui, les pays mal gérés, dont les dirigeants ne sont pas courageux, dénoncent la règle. Mais cette règle, d'abord, il faut se souvenir que, contrairement à ce qu'on laisse entendre en France, elle n'a pas été imposée par l'Allemagne. Elle a été demandée par la France elle-même, en 1992.
Mais qu'elle n'a pas suivi pendant de nombreuses années.
Oui, par lâcheté politique. Parce que notre pays est drogué à la dépense publique et drogué au déficit. Or, sur le long terme, on se rend compte que... ce qui est vrai pour nous, famille, ménage, ce qui est vrai pour une entreprise, ce qui est vrai pour une collectivité locale, une mairie, c'est-à-dire il ne faut pas dépenser plus qu'on ne gagne, est vrai également au niveau d'un État. Et on se rend compte que les pays fourmis, pour reprendre la comparaison de La Fontaine, la cigale et la fourmi, comme l'Allemagne et les pays du Nord, qui ont respecté cette règle d'équilibre budgétaire et de réduction de la dette, ont finalement connu une croissance beaucoup plus forte et un chômage beaucoup plus bas que les pays cigales qui, après cette enivrée de déficit de dépenses publiques, ont eu pendant de longues années des politiques d'austérité, en effet, de retour à la rigueur, qui ont été pénibles du point de vue social et dont on a vu les conséquences du point de vue électoral.
Alors, dernière question d'Annabelle Grolier.
Alain Lamassoure, comment un pro-européen notoire, comme nous l'entendons, entrevoit aujourd'hui l'avenir de l'Europe?
Nous sommes dans une situation qui est tout à fait paradoxale, parce que d'un côté, face aux menaces qui viennent du reste du monde, qu'il s'agisse de la menace terroriste, d'une forme de menace que représentent les flux migratoires extrêmement importants, ou de menaces à caractère politico-militaire de M. Poutine ou autre, ou face au nationalisme exacerbé du président Trump, chaque pays a tendance à se replier sur lui-même. Mais en même temps, dès qu'on réfléchit un petit peu, les opinions publiques, et on le voit dans les sondages, admettent que face à ces grands sujets, ou face, au-delà des menaces, aux opportunités formidables des prouesses technologiques du XXIe siècle, je pense notamment à l'économie numérique, aux biosciences, aux biotechnologies, si nous n'agissons pas tous ensemble, nous serons complètement impuissants.
Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas tant sortir de l'Europe, hein, finalement, que les populations plébiscitent, mais c'est changer l'Europe.
Exactement. Et c'est un immense progrès. Parce que grâce au Brexit et aux conséquences évidemment catastrophiques pour le Royaume-Uni, plus personne ne veut sortir de l'Europe. Je rappelle que même Madame Le Pen, après sa campagne électorale désastreuse, a été obligée de renoncer à proposer que la France sorte de l'euro et de l'Union européenne. Alors, il ne faut pas changer l'Europe, il faut changer la politique européenne si on est mécontent de la politique européenne, et puis se décider à transférer véritablement à l'Europe, ce que les traités permettent, c'est une question de volonté politique, les sujets sur lesquels nous sommes impuissants au niveau national. En ce qui concerne
donc il faut plus d'Europe.
Et nous terminerons là-dessus.
Il faut
merci
plus d'Europe sur ces sujets.
Tous les deux.
En ce qui concerne la migration, M. Salvini comme M. Orban sont totalement ridicules de vouloir régler le problème à leur niveau. Nous devons le régler au niveau européen.
Merci Alain Lamassoure, député européen, d'avoir été en direct avec nous. Merci à Annabelle Grolli ainsi qu'à nos confrères de France Bleu Pays Basque pour les moyens techniques. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui, avec un ciel souvent gris et parfois pluvieux. Quant aux températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Clarence Rodriguez pour le prochain journal de la rédaction.